On va commencer alors. Devait être autour de la table, outre les deux dames ici présentes, aussi Rachel Tanner, que j'ai voulu aller chercher, mais que je ne vois pas. Elle arrivera peut-être en cours de route. Et Joe Abercrombie, mais lui, il n'arrivera que cet après-midi. Donc, son avion n'arrive que cet après-midi. Et donc, on fera sans lui aussi. Alors, on n'est qu'à nous deux. Hein les, moi, oui, mais je ne compte pas. C'est pas moi qui parle, c'est vous. Alors, les figures du mal en littérature, sous-titre « Pourquoi écrivez-vous de telles horreurs ?» les figures du mal, elles sont légion en littérature, surtout dans celles qui nous occupent. On a le monstre de Frankenstein, on a le Mr. Hyde du Dr. Jekyll, on a évidemment Dracula et donc le vampire. Alors, plus proche de chez nous, il y a Fantomas, Fu Manchu, le Moriarty de Sherlock Holmes, ou l'Hannibal Lecter, la trilogie de Thomas Harris. Or, dans la littérature un peu plus facile, il y a le Jean sans terre de Robin des Bois, la marâtre de Blanche-Neige ou le capitaine Crochet de Peter Pan. On peut même dire qu'il y a le sorcier Gargamel dans les Schtroumpfs, mais c'est un peu plus édulcoré. Et il y a évidemment Saruman chez Tolkien et Voldemort chez Harry Potter. En fin de compte, il y a dans l'histoire la plus ancienne Satan, le diable, dans la Bible. Pour en parler, il y a donc Charlotte Bousquet qui est au bout, quelques 14 livres parus, dont les derniers sont chez Mnemos, Arachnae et Citeriae, qui font partie d'un cycle, même si les histoires peuvent se lire indépendamment, mais d'un cycle qui s'appelle comment, Charlotte ?
L'archipel des Numinés.
Voilà. Et aussi chez Mango, La marque de la bête, qui est un roman jeunesse. Et puis Maya Mazorette, qui a aussi pas mal de bouquins, mais un peu moins, je crois. Et les deux derniers, c'est « Dehors les chiens et les infidèles », qui est paru chez Mnemos, et qui va bientôt paraître en folio fin d'année, enfin en automne. Et elle avait écrit « Le pire est à venir », qui est devenu chez Mnemos en réédition « Rien ne survivra ». Alors, on va commencer par Charlotte. Quelle est votre vision de la figure du mal ?
Qu'elle n'est pas une figure du mal, mais qu'elle est plurielle. Je dirais que mon nom est Légion. C'est assez. Disons qu'elle est, elle est plurielle, elle est humaine, et elle a autant de facettes qu'il y a de possibilités humaines.
Maya ?
Moi, je ne suis pas vraiment une grande fan des personnages de méchants. Ce que j'aime, c'est les personnages de gentils qui dérapent. Je ne vois pas de figure du mal avec laquelle j'aurais particulièrement une acquaintance. Et surtout, effectivement, je ne vois pas une figure du mal. Je vois des gens qui sont un peu dans la frontière des gris. Je n'aime pas trop les univers en noir et blanc en général.
Mais justement, les figures du mal, ça doit être monolithique, Charlotte. Ou bien au contraire,
je sais pas, après tout, Dracula... Est-ce que les humains sont monolithiques ?
Vraisemblablement non, mais la figure du mal, c'est une figure humaine.
Ce sont des figures humaines. Et après, le reste, je dirais qu'on peut parler de chaos, on peut parler de mal, mais enfin, c'est beaucoup des choses qu'on... Je dirais, au niveau peut-être du monstrueux, comme on peut s'imaginer, par exemple, chez Lovecraft, c'est surtout des êtres qu'on ne comprend pas. Donc voilà, on va peut-être pouvoir les assimiler à la destruction, mais moi, c'est pas ces formes-là qui m'intéressent. C'est vraiment les formes humaines, toutes les facettes.
Maya, donc pas du tout de figure du mal qui représente, comme Voldemort chez Harry Potter, le mal par excellence, le noir, le sombre.
Pas dans mes livres, en tout cas. Là, donc, pour Dehors les chiens, les infidèles, on part d'une base qui est très, très manichéenne, avec du bien et du mal bien différenciés. Et puis, finalement, plus on avance dans le livre, plus on se rend compte que tout ça, c'était plus pour faciliter la lecture au début, en fait. C'est facile parce que les lecteurs ensuite savent toujours un petit peu comment s'y retrouver. C'était comme d'utiliser la religion comme une magie. Je me suis dit, ce sera plus facile de rentrer dans le livre si les gens savent déjà un petit peu à quoi s'en tenir. Donc, le bien, mal, c'est un début, mais ensuite, c'est certainement pas une fin.
Pour que l'assistance comprenne un peu, tu peux nous dire un peu de quoi parle Dehors les chiens, les infidèles, sous ce titre accrocheur et revendicatif.
C'est une quête, c'est un roman d'aventure qui parle de 5 jeunes héros, des adolescents, parce que j'aime bien les jeunes dans les livres. qui vont essayer de découvrir la lumière dans un monde qui est puni par Dieu et dans lequel la lumière peu à peu disparaît au point que c'est une nuit complète, quasiment tout le temps. Et dans ce livre, effectivement, donc il y a le monde des méchants. Et on a vraiment l'impression qu'au début, c'est des satanistes, c'est des méchants, c'est des hérétiques. Et puis finalement, on se dit, où est la limite, où est la barrière? Enfin, un thème finalement assez classique, d'ailleurs, de dire le bien, le mal, mais finalement, où est la limite? Sauf que moi, j'ai fait ça pas tant au niveau de personnages qu'à l'image d'un monde entier.
Et Charlotte, les figures du mal dans tes livres, dans Arachnaé par exemple,
elles sont assez multiples hein, quand même.
Raconte aussi de quoi ça parle, si tu veux bien.
Arachnaé ou Citeriae, qui est devant. Mais
oui.
En fait, on va dire Arachnaé qui n'est pas là, comme ça on va parler des absents, les absents ont toujours tort. Arachnaé, ça va être simplement des sortes de libertins décadents, un peu à la manière du marquis de Sade, qui s'adonnent à des orgies qui nécessitent l'utilisation de personnes en tant qu'objet. Donc ça va être ce côté-là, le fait de considérer autrui comme un objet de plaisir, un objet qu'on peut jeter. D'autres figures du mal vont pouvoir être, par exemple, quelqu'un qui adore une sorte de divinité maléfique, qui n'est pas vraiment une divinité non plus, mais qui est surtout complètement fou, qui a tout perdu et puis qui s'est simplement laissé avoir par une proposition malhonnête. Et d'autres personnages dans Arachnaé, mais y compris l'héroïne, vont être des personnes qui sont un peu grises, qui ont des failles, Théodora va en permanence fuir et se fuir. C'est pas le mal, mais c'est quelque chose d'assez trouble. Une personne dont elle tombe amoureuse, elle peut être aussi considéré comme un personnage mauvais, mais enfin c'est pas non plus le problème, c'est simplement le résultat de plein de choses qui font finalement qu'elles vont être qu'il ou elles vont être pris dans une espèce de nasse qui est une spirale en fait descendante.
En fait, Maya, tu parlais tout à l'heure de c'est la lutte du bien contre le mal, de la lumière contre les ténèbres. C'est le ressort habituel de la fantasy et même de certaines science-fiction. C'est obligatoire dans les romans de parler du bien, du mal.
On dit toujours que pour faire un bon livre, il faut avoir un bon méchant. Et c'est pas facile. Parce que finalement, il y a plein de figures du méchant qui ont déjà été faites. Alors, il y a les fous, il y a les désespérés, il y a les gens qui sont méchants pour être méchants. Ouais, il y a les vengeurs.
La volonté de puissance.
Ouais,
parce que...
c'est que la force soit en toi.
Voilà.
C'est, mine de rien, c'est pas facile de faire un bon personnage de méchant parce qu'il y en a tellement qui ont été écrits. Et moi, très souvent, quand je lis un livre et qu'il y a un bon personnage de méchant, je me dis, ah là là, mais pourquoi j'y ai pas pensé à celui-là? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le fait qu'on passe du côté obscur de la force pour poursuivre la métaphore Star Wars. mais moi, je trouve ça pas facile à écrire, pas facile à inventer. Donc c'est beaucoup moins facile qu'on s'y attendrait. C'est effectivement beaucoup plus facile de dire, voilà, je vais faire un personnage de gentil, parce que je pense, alors ensuite je suis peut-être très naïve, que peut-être au moins pour moi, mon aspiration personnelle, ce serait plutôt d'essayer de faire les choses le mieux possible. Donc essayer de comprendre un personnage qui ferait les choses le plus mal possible, c'est pas une évidence. C'est pour ça que je me sens plus à l'aise avec des personnages de gentils qui n'y arrivent pas et qui peuvent ensuite... Se retrouver du mauvais côté, que d'écrire directement un personnage de méchant qui serait non seulement crédible, mais intéressant et original.
Donc tu es plus Dr Jekyll et Mr Hyde que Dracula.
Oui, ah oui, complètement, oui.
Comment tu fabriques tes méchants?
Ça dépend lesquels. Je sais pas. Je sais pas, ils doivent venir de quelque part dans ma tête. Je pense que certains, en tout cas, par exemple, le méchant de Citeriae, il est pas méchant, c'est un pauvre type. Donc c'est peut-être des choses qui, vont me faire peur en moi. Ça va peut-être des failles, ça va être peut-être aussi, pour d'autres personnages, le fait qu'il y ait toujours finalement une potentialité en nous de faire quelque chose qui est mal, mais entre guillemets, quelque chose qui est ce que tu disais, un dérapage. Et un dérapage qui peut être aussi simplement parce que on va continuer sur Star Wars, plus facile, plus rapide, mais aussi parce qu'on peut se laisser, dépasser, on peut se laisser dévorer par des sentiments, par la folie, par ce genre de choses. Moi, c'est ça je pense que c'est ça qui fait que j'ai des personnages de méchants qui, à mon avis, sont à peu près crédibles et surtout très faillibles. Parce que le méchant omniprésent, le méchant tout puissant, il n'est pas super intéressant quand même.
Non, pas vraiment, mais en plus, la figure du méchant, c'est pas forcément un personnage. Ça peut être aussi. De toute façon, il faut toujours, pour qu'il y ait une tension dramatique, que le héros soit face à une situation désespérée, horrible. Enfin, c'est terrible à dire, mais pour rendre un personnage sympathique, il n'y a pas grand-chose de mieux à faire que de le mettre dans une situation terrible, parce que vous, les lecteurs, vous allez être complètement compatissants par rapport à ça, vous allez vous identifier à ce personnage-là, donc il faut qu'il y ait une forte tension, et pour ça, il faut qu'il y ait un fort ennemi. Mais l'ennemi, c'est pas forcément un personnage, ça peut être une situation, ça peut être un univers. Dans Dehors les chiens, les infidèles, c'est la nuit quasi permanente, donc il n'y a pas à manger. Dès que les héros essaient de faire quelque chose, le monde est contre eux. S'ils veulent faire du feu, il se met à pleuvoir. S'ils veulent avancer, il va y avoir de la gadoue par terre. Enfin, tout est contre eux tout le temps. Donc, faut peut-être aussi voir le personnage de méchant comme quelque chose de plus global.
Oui, ça peut être une abstraction aussi, comme l'inceste dans La Marque de la Bête, la pédophilie aussi dans Arachnaé, ou le mensonge, les faux semblants dans cette équipée de 5 adolescents dans Dehors les chiens, les infidèles. Le mal peut être là aussi.
Mais tout à fait, tout à fait. C'était pas du tout une question, donc je me sens pas obligée de répondre, mais
c'était une vérité.
J'essaye de vous faire réagir quand même.
Alors, on est assez d'accord en fait.
Le mal, on le voit dans ce que vous venez de raconter. Le mal est nécessaire à la conduite de l'histoire. Un bon roman, c'est avec un bon méchant. Pourquoi ? Parce que le méchant est sans doute plus séducteur ou parce qu'il fait avancer l'histoire ?
Ah oui, les deux, oui. Moi, j'aime bien les personnages de méchants dans les romans des autres. C'est pas pour ça que, donc, du coup, j'arrive à en créer moi-même des bons. Mais c'est vrai qu'un bon méchant dans un bon livre, c'est un vrai plaisir. On a plus envie de le suivre, lui, que le personnage principal. On s'y attache vraiment. C'était quoi la question ? Parce que
un bon méchant fait avancer aussi.
Oui, et fait avancer l'histoire. Voilà, c'était ça, la deuxième partie. Oui, effectivement, on a absolument besoin d'un méchant, parce que à part si on est vraiment, ensuite s'il y a des livres de vengeance ou des livres de quête où effectivement on pourrait à peu près se passer de méchant, mais dans ce cas-là, il faut une situation qui soit une situation d'adversité. Donc on retombe un peu sur cette logique.
En fait, le monde devient méchant. En fait. Le monde, les éléments, ce que tu disais tout à l'heure, le destin aussi peut servir d'antagoniste, mais c'est vrai que avoir un ou des méchants, des figures, des adversaires, est-ce qui permet en tout cas en tant qu'auteur de structurer l'histoire, de faire avancer les choses, et puis aussi de montrer, j'ai l'impression aussi de montrer plein de facettes aussi des personnages principaux. Qui vont pouvoir, qui vont réagir différemment, qui vont eux-mêmes ne pas être si gentils que ça, et c'est ça qui est assez intéressant.
Et puis tout bêtement, pour avoir une fin qui tient la route, quelle meilleure fin qu'un affrontement entre le bon et le gentil, le bon et le méchant. Oula.
c'est le duel final de tous les romans de KPDP, quoi.
Ah bah oui, c'est vrai que c'est à la fois une facilité scénaristique et quelque chose que moi, en tant que lectrice, j'attends un peu sur les romans d'aventure, en tout cas. Si j'ai pas mon affrontement à la fin, c'est qui va, si c'est un petit peu élégant, permettre de dénouer un petit peu les intrigues parallèles en même temps, je suis un peu déçue.
Ça dépend lesquels. Enfin, je serais assez. C'est vrai que les duels de fin, de préférence sur un parapet et ce genre de choses, c'est bien. J'aime bien aussi des fins qui sont beaucoup plus sombres.
Qui sont plus sombres.
Ouais. plus où il n'y a pas forcément de gentil ou méchant qui gagne, où ça se termine en demi-teinte et où finalement on se dit que de toute façon ça va continuer dans le pire et voilà, et que c'était pas et que finalement les figures du bien ou du mal ou du gentil et du méchant vont être dépassées par autre chose aussi, par le destin par exemple.
En fait, le mal est nécessaire à l'écriture d'un roman comme celui-là.
Bah, le mal est humain.
Et si on veut faire de l'aventure, on n'a pas trop le choix. Hein, en fait.
Il faut des méchants à trucider.
Non, mais ensuite, si les gens ne veulent pas de méchants, ils peuvent lire Anna Gavalda, Marc Lévy. Enfin voilà, il n'y a pas de problème. Hein.
Non, mais là, c'est toi qui es méchante.
Voilà, ça existe. Hein.
Même chez Marc Lévy, il y a quelques méchants. Édulcorés, mais il y a des méchants.
D'accord. Là, je viens de bluffer, j'ai jamais lu un Marc Lévy de ma vie.
Dans la marque de la bête, mm-hmm. Bruna est une fille de châtelain, de seigneur. Et quand elle est née, sa mère est morte et le seigneur en question ne peut plus vivre sans sa femme. Et devient donc, passe de l'autre côté de la frontière et devient de plus en plus aigri et donc méchant, jusqu'à vouloir commettre l'inceste avec sa fille. Elle s'échappe, mais elle s'échappe avec la peau d'un monstre que son père a tué et qu'il a conservé. Est-ce que ça veut dire, comme elle s'échappe avec la peau de ce monstre, qu'elle commence à avoir une relation avec la peau de ce monstre ou ce monstre à travers cette peau, que le mal, c'est un peu la bête qui est en nous?
C'est à la fois ça, mais c'est aussi, enfin, c'est à la fois l'altérité, les zones d'ombre qu'il y a en chacun de nous, mais aussi l'altérité de l'étrange que l'on peut, qu'on doit ou apprendre à connaître ou qu'on peut essayer d'apprendre à connaître pour advenir à soi-même, pour se construire, pour continuer à avancer. Le Maroc n'est pas une vraie. Pour moi, le Maroc n'est pas une figure du mal. C'est une entité qui est ce qu'elle est. Alors c'est vrai qu'il y a ce couple avec le loup de Luzira qui évoque un peu lumière ténèbres, mais le Maroc est il est bestial, enfin bête au sens la grande bête. Il est brutal, il est sauvage. Effectivement, bah, il dévore des âmes et ce genre de choses, mais c'est pas le problème. C'est vraiment cette figure de l'autre qui était intéressante et je trouve qui a permis à Bruna de se construire, justement. Son père est beaucoup plus, pour moi, une figure du mal. Parce qu'il est, il y a ce côté aigri, fou, décadent, et ce côté, je dirais, bon, c'est ce qu'on avait essayé de faire, on avait discuté avec l'éditeur, c'est ce qu'on avait essayé de faire. Quelqu'un qui a été, à un moment donné, on va dire, un archétype de proche chevalier, beau et chevaleresque, et puis qui se laisse aller, et puis qui finit par devenir une espèce de gros porc ivrogne, immonde. Enfin, c'est ce genre de choses qui là, pour moi, est la vraie figure du mal, donc humaine.
Et donc cette vraie figure du mal vient au départ du bien.
Aussi, absolument.
Comme toujours, Maya.
Bah, ensuite, c'est un débat philosophique un peu plus large que ça. C'est toujours de se dire, voilà, est-ce que comme Rousseau, on va penser qu'on est tous gentils et que la civilisation nous corrompt, ou alors l'inverse. Donc moi, j'aurais tendance à penser que à la naissance, on est plutôt comme des bêtes, justement, et qu'ensuite, la civilisation nous file un coup de main. Et que justement à l'adolescence on a envie de se radicaliser par rapport à ça, de choisir son camp. Donc moi généralement mes adolescents choisissent toujours d'aller du côté du bien, de vouloir finalement rendre parfait le monde à n'importe quel prix, et c'est le moment où dans le à n'importe quel prix qu'il y a des possibilités de dérapage. Donc dans celui-là ça va être de vouloir tellement sauver le monde et de vouloir tellement être parfait que ça va pouvoir dire torturer des innocents dans l'Inquisition, et dans Rien ne nous survivra, ça va être vouloir rendre le monde tellement parfait que pour ça il faut tuer tous les vieux.
Parce que dans Rien ne survivra, ce sont les vieux qui mènent le monde, en effet, et qui considèrent que les jeunes sont là que pour les servir.
Ah mais ce n'est pas une fiction. Non, non. Non, mais pour la petite anecdote, Quand Rien ne nous survivra est sorti, j'ai été invitée par un service du gouvernement à venir donner mon avis sur les rapports entre les jeunes et les vieux en France aujourd'hui, pour donner des idées à la politique de Sarkozy. Et donc, en fait, je passais quasiment la dernière, cette espèce de petit déjeuner de travail, où j'étais effectivement la seule personne de moins de 35 ans. Donc, les solutions qui étaient données, pas au conflit, mais disons aux petites tensions qu'il peut y avoir, étaient toutes, mais en faveur des personnes âgées, toujours, systématiquement, quoi qu'il arrive. Quand ça a été mon tour de parler, j'ai dit que c'était aussi les jeunes le futur et qu'il fallait un petit peu prendre ça en compte. Là, je me suis retrouvée face à un mur d'indignation de gens qui disaient mais comment vous osez dire des choses pareilles, quand même, le lien. C'est pas une question de lien, c'est une question de pas être pris au sérieux, c'est une question de pas pouvoir se construire. Donc avec le recul, je me suis dit waouh, je suis vraiment contente d'avoir écrit ce livre et de l'avoir écrit une deuxième fois. Parce que finalement, j'étais pas en train de raconter une fiction. Les gens qui étaient là à ce rendez-vous disaient qu'effectivement, pour résoudre le chômage, c'était simple. Il suffisait de donner comme opportunité de carrière aux jeunes, de servir les vieux, de faire de l'aide aux personnes âgées. Donc j'ai un peu tiqué. Mais voilà, c'est pas de la fiction.
Tu as réécrit le livre pour la deuxième parution ?
Oui, j'ai réécrit entièrement.
Entièrement,
oui. Très rapidement. Parce que mon éditrice voulait que ce soit publié assez vite, donc j'ai passé 3 mois à faire à peu près que ça du matin au soir. Donc c'était bien, j'étais bien plongée dans mon univers. C'était vraiment bien à faire parce que quand j'ai eu l'idée de ce livre, j'avais 19 ans, donc j'avais l'âge de mes personnages. Et c'est vraiment une histoire avec laquelle je suis restée pendant toutes ces années, qui m'a jamais quittée. Et je l'avais publiée une première fois, j'avais 25 ans. Donc là, le republier à 30, c'était intéressant parce que je me suis dit, est-ce que j'aurais encore la pêche ? Est-ce que j'aurais encore l'énergie ? Est-ce que j'aurais encore le courage de soutenir ce que je soutiens dans ce livre quelques années plus tard ?
La réponse a été oui.
La réponse est oui, et puis en fait, oui. Ouais. Vraiment, et voire plus qu'avant, en fait.
Tu devrais le réécrire à 50 ans et plus à 60 ans.
Mais peut-être, mais peut-être. Une œuvre en construction.
Et peut-être en changeant de point de vue ? Ou peut-être
non.
Pas ?
Non, je... J'espère pas.
Charlotte, le sous-titre de ce débat, c'est « Pourquoi écrivez-vous de telles horreurs ? Pourquoi le monde doit-il être si horrible ?»
Parce que vous trouvez qu'il est horrible, là ? Par rapport à la réalité ? Moi, je trouve pas.
Mais c'est ce qu'on pourrait penser en disant « Mais les livres ne sont là que pour nous aider à rêver. » Donc, rêvons de choses agréables. Et tu nous montres, enfin, vous nous montrez des choses qui ne le sont pas toujours.
Parce que, probablement, parce que je suis un peu une éponge. J'ai l'impression, quand j'écris, et que forcément, je puise à peu près partout mon inspiration. Et partout en ce moment n'est pas forcément très gai. Donc, c'est vrai que si Terriae va être imprégnée d'une certaine... politique qui veut que on trouve des boucs émissaires à tout et à peu près n'importe quoi. C'est vrai que dans Arachnaï, j'ai traité du problème de la pédophilie parce que c'est quelque chose qui me touche que ce n'est pas parce qu'on écrit des romans dans des univers imaginaires qu'on ne peut pas aussi dire les choses, faire passer des choses et que tout doit être complètement rose. Ce serait un petit peu gênant quand même.
Mais c'est vrai que malgré tout, particulièrement la fantaisie est considéré comme une littérature d'imaginaire et d'évasion plus qu'autre chose, la littérature doit, pour vous, parler des choses d'aujourd'hui. Et pas seulement nous faire rêver à des lendemains ou des ailleurs agréables, mais aussi nous faire ressentir ce qu'est notre civilisation ou notre situation aujourd'hui.
Soit ça, soit nous faire réfléchir sur nous-mêmes aussi. Et puis pas forcément pour... en tout cas, j'espère pas pour donner des leçons et ce genre de choses, parce que ça sera assez terrible, mais plutôt pour ouvrir des portes. J'ai l'impression... en tout cas, pour la marque de la bête, j'ai eu l'occasion assez récemment de discuter avec une lectrice qui m'a... que ça a énormément touchée. Et ça faisait en fait écho à quelque chose qu'avait manifestement vécu une de ses amies. Donc c'est des choses qui sont, voilà, c'est le fait d'ouvrir des portes, d'ouvrir peut-être des manières de penser, de se dire qu'on peut faire, qu'on peut agir, qu'on peut se faire ce genre de choses.
Maya ?
Pareil, ça peut m'intéresser de temps en temps de lire quelque chose de purement imaginaire, avec des petites licornes et des petits elfes. Hein. Mais généralement, je préfère quand même que les auteurs me parlent à moi, parce que c'est une manière de communiquer, sinon autant écrire tout seul dans son coin. Donc moi, effectivement, je me sers de thématiques qui sont modernes et actuelles. Cela dit, c'est pas une obligation. Et effectivement, de temps en temps, je pense à la Horde du Contrevent, il y a quelques années.
D'Alain Damasio.
Voilà, d'Alain Damasio, qui parle pas particulièrement de ce monde-ci, qui est une quête dans un univers complètement déconnecté d'ici et maintenant, et qui m'a apporté à moi énormément sur un plan personnel, alors qu'a priori, il n'y avait aucune raison. Ça ne parle pas de maintenant, ça ne parle pas d'ici, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Et il y a certaines choses dedans qui, moi, m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait grandir. Donc effectivement, dans ce cas-là, je suis toujours très contente. Mais de toute façon, les livres, ça sert à ça.
En effet. Est-ce que alors les littératures de l'imaginaire seraient aujourd'hui les seules littératures qui fassent réfléchir ?
C'est ce que semble dire Stéphanie Nico dans la préface de Magicienne et Sorcier. En tout cas, que c'est bien parti. Parce que justement, je pense que ça... Je ne suis pas sûre que ce soit les seuls, en étant tout à fait objective. Mais en tout cas, c'est, à mon avis, un des plus gros espaces de liberté actuels. C'est justement ces littératures de l'imaginaire qui permettent à peu près tout.
C'est pour ça que vous y travaillez dans ce domaine-là ? Ou bien c'est parce que vous aimez inventer des situations
les deux.
Tout à fait étranges, mystérieuses et originales ?
Non, moi, c'est parce que j'aime raconter des histoires. Et que c'est plus facile de les raconter dans cet univers-là. L'histoire préexiste à l'univers. Mais ensuite, moi, en tant que lectrice, j'ai une bonne moitié de documents, de choses qui ne sont pas de la fiction. Donc j'estime que si je veux réfléchir à des sujets, je peux aussi me documenter vraiment. Et j'y prends beaucoup de plaisir en plus, autant qu'en lisant de la fiction.
En fait, la fiction dit plus la vérité que la vérité.
Est-ce que la vérité existe ? C'est là, pardon, c'est quelque chose qui est complètement différent.
Non, mais pour en revenir au sujet, sur l'horreur, est-ce que l'horreur existe ? Moi, je sais que je parle de choses qui peuvent effectivement paraître extrêmement violentes, mais pour moi, elles ne le sont pas. Et si elles l'étaient, je ne les écrirais pas. Il y a des sujets qui, moi, en tant que personne, me sont absolument insupportables. Je ne peux pas lire un livre, regarder un film où on frappe un enfant. Je ne peux pas regarder la télé si on parle de viol. Et c'est des situations desquelles je ne parlerai jamais, jamais, jamais. Et finalement, c'est incohérent, c'est horrible, mais c'est humain. Pour moi, c'est plus facile d'écrire sur tuer ses parents que d'écrire sur des choses qui seraient beaucoup moins graves, mais qui seraient de faire du mal à un enfant, par exemple.
C'est complètement opposé. Sauf que oui, bon, faire du mal à ses parents, ça peut aussi arriver. Mais non, c'est marrant, parce que moi, c'est pas du tout des... Écrire justement sur l'enfant frappé, le viol, l'inceste, non, c'est plutôt des choses qui me poussent à écrire justement.
Non, voilà, chacun voit l'horreur, voit l'horreur où il veut. Et, et voilà, si pour moi c'était vraiment de l'horreur, mais je n'oserais pas aborder ces sujets, je ne le ferais pas.
Il y aurait pourtant une fonction d'exorcisme à le faire.
Non, il y a une fonction d'exorcisme de toute façon. Mais des fois, on est sur des choses qui sont trop intimes, trop personnelles. Et puis dans ce cas-là, enfin voilà, il y a toujours deux possibilités. Soit on affronte le dragon face à face, effectivement, peut-être qu'on écrit des livres sur la question. Soit on décide de zapper de ça de sa vie et stratégie qui marche très bien. Voilà, titre personnel.
J'ai tendance à affronter les dragons dans ces cas-là.
Moi, je fuis.
Et après, c'est les livres dont on a parlé. Maya, tu es occupée à écrire dans d'autres mondes, dans d'autres univers ou...
Je fais de la bande dessinée en ce moment.
Tu fais de la bande dessinée, oui. Des scénarios de bande dessinée.
Oui, des scénarios, oui.
Avec Jean-François Prince, non, de Prince.
Arthur de Pince.
Arthur de Pince.
Pas mal. Arthur de Pince, voilà, pour des séries un peu sexy. Et là, je commence l'an prochain une série pour la jeunesse, les adolescents, pour Spirou.
Pour Spirou.
Eh oui.
Ça existe toujours.
Eh oui, ça existe toujours.
Charlotte, projets littéraires
En ce moment, je termine un policier historique pour les adolescents qui se passe pendant les premières années du règne d'Adrien à Rome, donc. Et puis ensuite, j'enchaîne sur un roman aussi pour adolescents, plutôt un roman d'anticipation avec chez Autre Monde. Voilà. Et puis après, j'ai encore plein de projets qui sont...
Facile de passer d'un monde à l'autre comme ça, parce
mais
que
oui.
Tu parles du polar, de la fantaisie au polar, du polar à la SF.
Ça permet de ne jamais se lasser, en fait. C'est ça qui est assez merveilleux, c'est que le polar historique, il y a une énorme partie documentaire, et puis il y a l'écriture, et voilà. Là, Autre Monde, c'est aussi une partie documentaire, mais ça va être plutôt sur en fait, l'avenir de la planète, des espèces en danger, et voilà. Et puis après, je vais repasser sur de la fiction, et c'est génial, parce qu'on se renouvelle tout le temps.
Ah bah pareil, hein, forcément.
Écoutez, il est moins quart. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Alors, la salle peut y aller de ses questions. Je vois que la salle ne bouge pas.
La salle a peur, en fait.
La salle a peur. Oui, il y a une question, là.